24 août. Et pourtant, cette tradition du texte est démentie de plus en plus fréquemment par les trouvailles archéologiques. Des vêtements chauds, de laine, ont été retrouvés sur les corps. Des jarres sont remplies du vin des vendanges. Des braseros sont allumés. On a même identifié des empreintes de feuilles mortes sur des pierres ponces. Bref, il y a toute une série d'indices archéologiques qui renforcent l'hypothèse automnale. 24 octobre plutôt que 24 août. Mais l'histoire est ainsi faite que l'on fait toujours plus confiance aux textes qu'aux vestiges archéologiques. Que nous dit alors l'archéologie de la réalité de Pompéi au moment de sa destruction? Regardez ce porche. La moitié droite a été reconstruite en briques. À la base de ces colonnes, des renforts de plomb ont été injectés pour les empêcher de s'écrouler. Les arcades de l'amphithéâtre ont été renforcées par un chemisage en briques. Une fissure a abîmé ce four à pain, puis a été colmatée. Et seul un des quatre moulins était en activité au moment du cataclysme. Tous ces indices documentent un événement majeur, survenu en l'an 62, que la catastrophe de 79 a souvent oblitéré. En 62, Pompéi connaît un tremblement de terre puissant qui endommage profondément la ville. Les Pompéiens l'ignorent, mais cette activité sismique est le signe avant-coureur du réveil du volcan. On peut dire que Pompéi, en 79, est une cité en crise. C'est une cité en crise parce qu'elle subit depuis 15 ans les assauts répétés des tremblements de terre et qu'elle peine à se reconstruire. Et donc, ce qui va être figé en 79 par l'éruption du volcan, ce n'est pas une ville tranquille et prospère de la Campanie, c'est une ville qui peine à se reconstruire après le tremblement de terre de 62. Et ça, les archéologues le savent très bien aujourd'hui, qui analysent en détail les stigmates de la destruction et les traces de la reconstruction. Ici, à la maison des Chastes Amants, les premiers archéologues furent saisis de trouver les traces de l'instant même du cataclysme, comme cette fresque abîmée par le séisme de 62, et que les peintres étaient justement en train de restaurer lorsqu'ils se firent surprendre par l'éruption. Mais ils purent aussi constater les dégâts causés par les pilleurs qui les avaient précédés, et la fragilité des constructions. Dans la seconde moitié du XXe siècle, il fut donc décidé d'arrêter les grands dégagements pour garder du matériau de recherche intact à l'attention des futures générations d'archéologues. Ainsi, un tiers de Pompéi reste aujourd'hui protégé sous les lapilli, la cendre et la terre. C'est à nouveau avec la mort que l'histoire, ou plutôt les histoires, se révèlent. À la nécropole de la Porta Nocera, une équipe française étudie depuis plusieurs années les rites funéraires à Pompéi sous la direction de William von Andringa.
Lorsqu'on dégage les matériaux volcaniques, on tombe évidemment sur le sol du 24 août ou du 24 octobre, ce qui veut dire que le sol est en place, que les objets laissés sur le sol sont également en place. Et ensuite, lorsqu'on fouille ces premiers niveaux, on tombe très vite sur les niveaux immédiatement antérieurs qui fourmillent de traces.
L'équipe de William von Andringa étudie chaque centimètre carré des sépultures, analyse le moindre morceau de charbon, relève le plus petit éclat d'objet. Au laboratoire, installé dans une maison de Pompéi, les sédiments recueillis commencent à livrer leurs secrets par un minutieux travail d'enquête qui mobilise une vingtaine de professionnels issus de toutes les disciplines. À partir du plus infime fragment, ils peuvent dire s'il s'agit d'un morceau calciné de figue ou de noisette, d'un os de chien ou d'oiseau, si les restes humains proviennent d'un homme, d'une femme ou d'un enfant.
Le recoupement donc de tous ces indices nous amène à restituer une gestuelle, des gestes, on peut parler d'archéologie du geste, et nous amène finalement à toucher du doigt les comportements, hein, les comportements qui étaient motivés par la tradition familiale, ou moins qui étaient générés ou par la tradition familiale, mais qui étaient les comportements qui étaient aussi influencés par l'émotion. Il est évident que la mort cause un trauma dans la famille, et on arrive donc à restituer donc la variabilité des gestes qui répond justement à des moments d'émotion et à des également à des traditions familiales différentes.
Voyez par exemple la façade de ce monument funéraire. L'inscription indique que le monument a été érigé par une esclave affranchie, Verania Clara, pour Caius Veranius Rufus, un citoyen haut placé dans la hiérarchie de la cité et fils de l'ancien maître de Verania Clara. Que s'est-il réellement passé entre ces deux personnages? La réponse se trouve de l'autre côté de la façade. Les archéologues ont retrouvé deux stèles, l'une pour Verania Clara, l'esclave affranchie, l'autre pour Caius Veranius Rufus, le citoyen. Sous la première, ils ne trouvèrent rien. Sous la deuxième, se trouvaient les ossements de deux corps, celui de l'homme et probablement celui de la femme, mélangés dans la même sépulture. Voilà. L'équipe de William Van Andringa a vraisemblablement mis au jour, 2000 ans plus tard, une histoire d'amour entre une esclave affranchie et le fils de son ancien maître.
Dans cette double expression de la mort, puisqu'on trouve en façade des monuments, face à la rue, l'ordre social établi et une organisation des sépultures à l'intérieur des enclos qui est en relation avec la structure familiale et son fonctionnement, on voit bien ici que les textes, les inscriptions, eh bien, ont un côté très normatif, c'est-à-dire qu'ils représentent la société établie, hein, l'ordre établi. En revanche, à l'intérieur des enclos, on voit bien que les traces laissées par les rituels funéraires, les traces laissées par toute l'activité funéraire déployée autour de la mémoire des individus, des défunts, eh bien, elles viennent, non pas en contradiction, mais elles montrent la richesse des comportements humains et la richesse des comportements humains qui s'adaptent à un ordre fixe, à un ordre établi. Autrement dit, les textes nous donnent finalement la représentation d'une société, alors que l'archéologie, eh bien, complète en quelque sorte le panorama et montre que cet ordre établi peut être transgressé, il peut être enrichi.
À ceux qui demandent « y a-t-il encore quelque chose à découvrir à Pompéi ?», on répondra volontiers « tout reste à découvrir ». Mais pas la vie quotidienne folklorisée que l'on montre aux touristes, non, la vie sociale complexe qui joue avec la norme dans un écart que les archives du sol nous donnent aujourd'hui la chance de pouvoir reconstituer. Ce qui caractérise Pompéi en 79, c'est peut-être qu'elle est une ville du monde romain, parmi tant d'autres, à la fois banale et singulière, bien éloignée des mouvements qui, pendant ce temps-là, agitent le monde. À Rome, l'empereur Titus est sans doute plus préoccupé par les révoltes des Juifs de Judée qui se rebellent à la suite de la destruction du Temple de Jérusalem. Au même moment, des peuples barbares migrent au nord de l'Europe, entre Scandinavie et plaine germano-polonaise. C'est aussi le moment où se rédigent les évangiles chrétiennes et 79 est peut-être l'année où meurt le second pape, Linus, successeur de Saint-Pierre, pendant qu'en Chine naît l'empereur Heidi de la dynastie Han, et que les érudits y établissent le texte définitif des écrits de Confucius. Certains rêveront encore de la coïncidence entre la destruction d'une cité antique et l'avènement du christianisme, comme si la nature avait puni les habitants de Pompéi de s'être vautrés dans les plaisirs coupables. Les historiens et les archéologues chercheront plutôt à sortir des représentations figées et des clichés, pour retrouver justement, à travers cette instantanée de la mort que nous a livré le hasard de l'histoire, le témoignage de la vie réelle, singulière, telle qu'elle a eu lieu ici, il y a près de 2000 ans. Qu'est-ce qui fait date en 79? Ce qui a lieu à ce moment-là, c'est un événement pour nous, un événement pour aujourd'hui. C'est un événement de savoir, c'est-à-dire que ce sont les conditions de possibilité d'une connaissance future de Pompéi. C'est ça l'éruption de 79. En cela, elle fait date. Elle fait date parce qu'elle nous permet aujourd'hui de comprendre l'ordinaire des jours qui est révélé par l'extraordinaire d'un jour. Et c'est ça qui est proprement vertigineux dans l'histoire de Pompéi. C'est que parce qu'un jour la vie fut anéantie, aujourd'hui, pour nous, elle est devenue connaissable.